crime s'installe ce soir dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Nous allons vous raconter ce soir trois histoires, trois faits divers qui se sont déroulés en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le 8 janvier 2002, Marcel, 66 ans, vient rendre visite dans un quartier résidentiel d'Avignon à son amie de longue date. Mais en ouvrant la porte de chez elle, elle découvre une véritable scène d'horreur. Son amie, Marie-Andrée, est allongée par terre, inanimée, sur le ventre. Elle a le crâne fracassé, un crime odieux qui va bouleverser tout un département. Car Marie-Andrée n'est pas n'importe qui. Élue Super Mamie en 1998, la vieille dame était une véritable figure locale, très active dans le milieu associatif. Qui en voulait donc à cette grand-mère modèle ? Plongez dans cette effroyable histoire qui va mobiliser pendant plusieurs mois les enquêteurs de la police judiciaire d'Avignon.
On est sur des faits qui vont soulever le cœur de la plupart des gens qui interviendront sur cette scène de crime.
À la fin de l'année 2006, à Sisteron, les instituteurs du village font une terrible observation. Deux enfants de l'école primaire présentent des marques de coups violents sur le corps. Alertés, les gendarmes décident immédiatement de se rendre chez eux pour interroger leurs parents. Mais arrivé sur place, l'inquiétude double, car un des cinq enfants du couple manque à l'appel. Il s'agit de Nathan, qui n'a que 3 ans et demi. Face aux questions des enquêteurs, les explications avancées par le père de famille vont s'avérer particulièrement farfelues. Alors, le petit garçon a-t-il été enlevé, comme le prétend son père ? Est-il toujours en vie ? Vous allez voir que cette affaire va révéler un des plus terribles cas de maltraitance que la France ait connu.
Nathan, il a dit, vous ne l'aurez jamais, je préfère le tuer de mes propres mains, mais il fait, vous ne le verrez plus jamais.
Le 15 avril 2011, dans le Var, Séverine s'impatiente à la sortie de son lycée. Elle attend sa mère, qui n'est toujours pas là. Colette était censée venir la chercher, mais la mère de famille de 50 ans ne viendra pas. Elle s'est volatilisée dans la nature. Les dernières personnes à l'avoir vue sont ses collègues de travail d'un hypermarché. Elle était dans sa voiture, en direction de Draguignan. Que lui est-il arrivé ? Pourquoi n'a-t-elle pas refait surface ? Une énigme qui va tenir en haleine pendant plusieurs mois tout un village et mener les enquêteurs jusqu'à la piste de l'homme le plus recherché de France, Xavier Dupont de Ligonnès. Et pourtant, vous allez voir que la vérité est bien plus simple qu'il n'y paraît.
Je me dis, elle a été enlevée, elle ne peut plus partir, elle est prisonnière. On est peut-être maltraité, donc on s'invente les pires choses, quoi.
Nous allons maintenant vous raconter l'histoire de la Super Mamie 1998 de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. En 2002, son corps a été retrouvé chez elle. Voici ce document pour crime. Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir comment une véritable icône locale, une super mamie appréciée de tous, a trouvé la mort dans d'atroces souffrances. Un crime d'une rare violence qui a tenu en émoi toute la population d'Avignon.
On est sur des faits qui vont soulever le cœur de la plupart des gens qui interviendront sur cette scène de crime.
Nous sommes en Avignon, grande ville du sud-est de la France, surnommée la Cité des Papes en raison de la présence des papes au XIIIe et XIVe siècle. Ville de culture et d'histoire, elle est le chef-lieu du département du Vaucluse. Une ville attractive, au climat agréable, dans laquelle ses 90 000 habitants coulent des jours paisibles.
C'est une ville qui est très renommée dans le monde entier, de par son festival, de par ces théâtres qui fleurissent un petit peu partout dans la ville. Et c'est une ville magnifique. C'est la capitale de la Provence.
Mais derrière cette façade de carte postale se cachent aussi des côtés plus obscurs. La ville est en effet composée d'une ceinture de quartiers sensibles où la délinquance fait rage.
Même si c'est une ville très touristique et très appréciée, on a quand même une délinquance assez forte à Avignon, qui a toujours été classée dans les 10 premières villes de sa catégorie au rapport de sa population délinquante en France.
Et c'est justement dans un de ces quartiers populaires de la banlieue avignonnaise qu'en ce 8 janvier 2002, Marcel, 66 ans, va rendre visite à son amie de longue date, Marie-André, 69 ans.
Je suis arrivée chez Marie-André, il était 8 heures le matin. Elle m'attendait pour le café. Et quand je suis arrivée, j'ai tapé à la porte, bien entendu, à la porte d'entrée. Et j'entendais la télévision qui marchait très très fort. Et je tape, pas de réponse.
Ce n'est pas dans les habitudes de Marie-André d'oublier un rendez-vous. Marcel sent bien qu'il se passe quelque chose d'anormal. D'autant plus qu'à travers la fenêtre, elle voit bien que toutes les lumières sont allumées.
Donc comme elle connaît la maison, elle va faire le tour de la maison, passer par le jardin, voir si elle trouve son amie dans le jardin. Elle ne la trouve pas, mais elle trouvera une porte-fenêtre entrouverte. Elle va donc rentrer par cette porte-fenêtre à l'intérieur de cette petite maison.
Je suis arrivée à la télévision, je l'ai arrêtée. Et à ce moment-là, j'ai vu Marie-André qui était allongée par terre à plat ventre.
Pour Marcel, il y a urgence. Marie-André a peut-être été victime d'un malaise. Elle appelle immédiatement le SAMU qui arrive quelques minutes plus tard sur les lieux. Et alors que les médecins examinent son ami au sol, Marcel comprend qu'il est trop tard.
Et à ce moment-là, il y en a deux qui ont soulevé le corps pour la retourner sur le dos. Tout ce que j'ai vu, pour dire la vérité, tout ce que j'ai vu, c'était un fil de sang qui coulait le long de sa cuisse.
Et ce n'est pas tout. La vieille dame a le crâne fracassé. Les médecins du SAMU comprennent qu'ils sont face à une scène de crime d'une rare violence. Devant le macabre spectacle, Marcel s'effondre.
Alors là, bien sûr, des pleurs, des larmes, effondré, abasourdi, la souffrance, voilà ce que j'ai ressenti.
À 69 ans, rien ne prédestinait cette retraitée à une fin aussi tragique. Alors que s'est-il passé derrière les murs de ce petit pavillon ? Ce matin du 8 janvier 2002, la ville d'Avignon s'apprête à vivre l'un des chapitres les plus noirs de son histoire. Ce matin d'hiver 2002, le quartier des Neuf Pères se réveille sous le bruit assourdissant des sirènes de police qui prennent d'assaut la petite maison de Marie-André. Sur place, les enquêteurs de la police judiciaire d'Avignon procèdent rapidement aux premières constatations.
Alors tout autour du corps, une paire de lunettes cassées, un certain nombre d'objets épars, une prothèse dentaire qui est par terre également.
Cette prothèse dentaire, éjectée de la bouche de Marie-André, témoigne à elle seule de la violence des coups encaissés par la vieille dame.
Quand ils vont examiner le corps, ils vont se rendre compte qu'il y a des traumatismes très violents. La dame a été frappée à des coups sur le visage. Elle présente des marques de scarification sur le ventre.
Quant au légiste dépêché sur place, il fait une découverte qui donne une nouvelle tournure à l'affaire.
Lorsqu'il va finir les constatations sur le corps et qu'il va être amené à déshabiller le corps de Marie-André, il va là se rendre compte qu'elle a été sauvagement agressée sexuellement par un objet.
Comble de l'horreur, Marie-André a été violée avec un micro, retrouvé sur place. L'autopsie déterminera plus tard que ses lésions sont à l'origine de sa mort.
Là, on dépasse les habitudes. On est sur des faits qui vont soulever le cœur de la plupart des gens qui interviendront sur cette scène de crime.
Commence alors un travail de fourmi pour les policiers qui vont passer la maison de la retraitée au peigne fin. Les meubles et tiroirs des différentes pièces ont été fouillés, les objets et papiers éparpillés. Mais rien ne semble avoir disparu.
Ils constatent qu'il n'y a pas eu d'effraction pour entrer dans la maison. La porte est fermée, toutes les issues, aucune issue n'a été fracturée.
A priori, il y a trois verres dans l'évier, ce qui effectivement tend à penser que, étant donné que c'est une femme qui vit seule, peut-être quelqu'un est passé.
Ces indices permettront peut-être de remonter jusqu'au coupable. Mais à ce stade des investigations, aucune piste n'est privilégiée. Pourtant, une hypothèse commence à germer dans l'esprit des policiers. Pourrait-il s'agir de l'œuvre d'un proche ?
Il se demande s'il ne s'agirait pas d'une dispute qui aurait pu intervenir dans un autre cadre avec une personne connue et une mise en scène de cambriolage pour faire croire justement à une autre piste.
En effet, le sadisme du mode opératoire conforte cette piste. Il semblerait que le ou les meurtriers aient cherché à se venger en humiliant leur victime. Pour en savoir plus, les policiers procèdent à une enquête de voisinage. Peut-être quelqu'un a-t-il vu ou entendu quelque chose.
Aucun voisin ne va dire avoir vu une voiture, avoir entendu des cris, avoir entendu quelque chose d'anormal le soir, dans la soirée ou au cours de la nuit ou au petit matin.
Ensuite, la police va rechercher au sein de la famille de Madame Fesquet s'il pouvait y avoir des personnes qui lui en voulaient, des parents plus ou moins proches.
Mais très vite, la piste de la famille se referme. Marie-Andrée était sans conteste une femme aimée des siens.
On se rend compte qu'il n'y a pas de raison particulière, bon, il n'y a pas de raison d'héritage particulier, ce n'est pas une femme qui est fortunée. Donc à ce moment-là, on passe, en matière d'enquête, on a les cercles. Le premier cercle, le deuxième cercle, c'est le cercle d'amis.
Les enquêteurs vont donc s'attacher à recenser tous les amis et connaissances de la retraitée. Une mission qui va s'avérer plus laborieuse que prévu.
Alors, il y en a beaucoup, notamment parce que Marie-Andrée Fesquet fait partie d'une association. Elle est en fait chanteuse, hein, et donc elle a énormément de relations liées à ce travail-là.
Les policiers du commissariat d'Avignon ne sont qu'au début d'une enquête qui va les mener aux confins de l'horreur. Alors, qui se cache derrière ce meurtre sordide ? Marie-Andrée, retraitée, a priori sans histoire, avait-elle des ennemis ? Nous sommes le 9 février 2002. La mort de Marie-Andrée est sur toutes les lèvres et pour cause. Cette grand-mère est connue partout en Avignon. En effet, Marie-Andrée a remporté le titre de Super Mamie Provence-Alpes-Côte d'Azur 97.
Dans les rues, on en parlait. Dès qu'on s'est rencontrés, vous avez vu la super mamie. Tout le monde en parlait. C'était des conversations partout. Parce que pour nous, Avignon est tombé sous l'horreur.
Famille, proches ou simples citoyens, tous veulent comprendre les raisons de ce drame. Car ici, personne ne lui connaissait d'ennemis. À 69 ans, elle est décrite par ses enfants comme une mère aimante et une grand-mère attentive. Sa vie entière a été consacrée aux autres.
C'est une femme qui était aide-soignante à l'hôpital, hein, et puis qui, après, quand elle a pris sa retraite, elle travaillait le soir, elle gardait des malades à domicile.
C'était une personne tellement gentille, dévouée, généreuse. Elle avait beaucoup de qualités. Que j'aurais bien, moi, voulu avoir.
Marie-Andrée était appréciée pour sa grande générosité. Mais pas seulement. Une autre qualité lui a valu le titre de super mamie, sa voix. Depuis sa retraite, elle se consacrait corps et âme à sa passion, le chant.
C'était une très bonne chanteuse. Elle avait une très jolie voix, avec beaucoup de sentiments. C'est une femme qui exprimait beaucoup. Étant donné qu'elle était très bonne, très gentille, elle ne pouvait que bien exprimer ses chansons. C'était un peu notre star, il fut un temps. Hein. On parlait de la super mamie. On la présentait quand il y avait certaines manifestations. La super mamie, vous savez, c'est un peu comme les Miss France, hein. C'était notre Miss France à nous, quoi. C'était notre super mamie.
Tout le monde l'aimait. Qui c'est qui l'aimait pas, je ne sais pas.
En effet, à l'issue de l'enquête de personnalité, les policiers d'Avignon ne trouvent aucune ombre à ce portrait sans faille. Cependant, parmi les dizaines de PV d'audition, un témoignage va finir par retenir leur attention.
on tombe effectivement sur une personne qui la fréquente dans le cadre du champ, prénommée Georges.
Et l'homme semble dissimuler quelque chose. Entendu au début de l'enquête, il avait affirmé avoir croisé Marie-André la veille de sa mort, aux alentours de midi. Mais en recoupant l'ensemble de leurs auditions, les policiers mettent le doigt sur une incohérence de taille dans cet emploi du temps.
On va prendre des témoignages au niveau du garage du supermarché qui est à côté du domicile de Marie-André. On tombe sur deux personnes qui nous expliquent avoir rencontré Georges dans la journée du 8 janvier, qui leur a indiqué qu'il était le soir des faits encore avec Marie-André.
Georges est placé en garde à vue. Il est un suspect sérieux dans cette affaire. C'est son empreinte que les techniciens de la police scientifique ont retrouvée sur l'un des verres d'eau saisis dans l'évier chez Marie-André.
L'hypothèse première qui est formulée concernant Georges à ce moment-là, c'est de se dire c'est un amant éconduit ou c'est quelqu'un avec qui Marie-André a eu une relation et qui s'est mal terminée ou qui l'a mal supportée. Et il s'est passé à ce moment-là ce qui pourrait être considéré comme une sorte de crime passionnel.
En garde à vue, Georges conteste avoir fait ses déclarations. Il va même changer plusieurs fois de version avant de reconnaître avoir dîné avec Marie-André le soir du crime.
Au final, après quatre auditions, je crois, on va s'apercevoir que en fait, il n'y est pour rien et qu'il n'a fait ses déclarations que parce qu'il savait qu'il était sans doute un des derniers à avoir vu Marie-André vivante et que donc il avait peur d'apparaître comme suspect dans le cadre de cette affaire.
Georges innocenté, les policiers sont au point mort. Et après plusieurs jours d'investigation active, l'enquête piétine.
L'enquête qu'ils ont menée, tant dans aux alentours géographiques, dans l'entourage familial, dans l'entourage amical, et notamment la mise en garde à vue de cet ami, démontrait qu'ils étaient un peu, pas aux abois, mais à la recherche de quelque chose et qu'ils n'avaient pas beaucoup d'éléments. Voilà.
Il fallait élucider cette histoire. Il fallait que Marie-André ne parte pas sans avoir eu une conclusion à son meurtre.
Alors que l'angoisse monte chez les proches de Marie-André et que la psychose gagne la ville, le ou les tueurs courent toujours. Alors un tel drame pourrait-il se reproduire? Saura-t-on enfin qui s'en est pris à cette sexagénaire? Cela fait une semaine que Marie-André est décédée. Avignon est sous le choc de cette tragique disparition et l'affaire alimente la une des journaux. Pourtant, les enquêteurs sont dans l'impasse. Mais le 14 janvier, la chance va enfin tourner en leur faveur.
Les policiers vont obtenir des renseignements de la part des gens du quartier. Des noms sont déjà prononcés et apparaissent comme étant les vraisemblables auteurs de ces faits.
Un certain Jamel pourrait avoir commis ce crime, accompagné d'un jeune prénommé Naïm. En fait, ils auraient fait un cambriolage qui aurait mal tourné.
Les témoignages qui parviennent aux oreilles des policiers semblent crédibles. D'après ces informateurs, le soir du drame, le fameux Jamel, passablement éméché, faisait le tour du quartier à la recherche d'un pied de biche. Majid fait partie des jeunes qu'il a sollicité.
Il était un peu chaud. C'est là qu'il me dit « T'as pas un pied de biche ?» Je dis « Non, j'ai pas de pied de biche. Ce que j'ai fait, t'as qu'un pied de biche. » Et moi, je pensais qu'il allait le faire péter une cave ou... Je sais pas, parce que lui, il est un peu foufou, un peu dans sa tête. Et après, en partant, il me dit « Tu vas voir, ce soir, je vais faire un meurtre. »
Lorsque deux jours plus tard, Majid découvre l'affaire dans les journaux, il fait tout de suite le rapprochement. Sans hésiter, il apporte son témoignage aux policiers.
La cité a parlé, alors que traditionnellement, la cité, c'est une zone de silence, on ne dit rien. C'est vraiment l'omerta, et puis on a intérêt à ne rien dire, parce que lorsqu'on parle, on subit les conséquences de ce qu'on a pu dire.
Dans ce quartier, beaucoup de gens ont dit, ok, d'accord, on n'est pas forcément des citoyens au-dessus de tout soupçon, mais ça, c'est trop.
Car dans le quartier des Neuf Pères, cet enfant du pays n'est pas en odeur de sainteté. Il faut dire que Jamel joue les caïds depuis son plus jeune âge. Alors, lassés par ses excès, les habitants ont décidé de ne plus se laisser tyranniser.
Ils cassaient les ascenseurs, ils pissaient dans les escaliers, ils respectaient rien. Franchement, c'était un alcoolique aussi. Il faisait que de boire du matin jusqu'au soir, des bières, il ne s'arrêtait pas.
Tout le monde nous le rapporte comme quelqu'un de violent, voilà, de quelqu'un de perpétuellement aviné ou bourré, et qui exerce sa violence à la fois dans des bagarres à peu près égales, mais également sur les petits.
Il jouait le caïd, il faisait le barbeau, c'était lui le plus fort. Oui, il avait des amis, bon, c'était beaucoup d'amis qui avaient peur de lui.
Quant à Naïm, à 16 ans, il n'est encore qu'un adolescent influençable. Arrivé depuis quelques mois aux Neuf Pères, il est peu encadré par sa famille. Lorsqu'il ne traîne pas au bas de son immeuble, Naïm s'exerce à la petite délinquance.
Il a dû faire un ou deux cambriolages aussi sur Avignon. Donc c'est pas un enfant de cœur, mais c'est un suiveur.
Jamel, il le faisait étudier avec moi, il allait avec lui, tellement qu'il avait peur. Et sinon, Naïm, quand je l'ai vu la première fois, c'était pas un mauvais garçon, c'était un bon gars, c'était... Il était super gentil. Et ce qu'il y a avec la crainte de Jamel, il le suivait de partout.
Les policiers sont surpris par l'âge des mises en cause. Mais devant le faisceau de témoignages accablants, ils décident d'agir au plus vite.
On procède à toutes les interpellations, donc des deux auteurs présumés, mais également de leur entourage proche, hein, donc le père, la mère, éventuellement frère, de leur environnement familial.
Alors, que vont révéler ces nouvelles auditions? Âgés de seulement 18 et 16 ans, Jamel et Naïm peuvent-ils vraiment être les auteurs de cette exécution barbare? Les enquêteurs vont-ils avoir le fin mot de cette histoire? Au commissariat central d'Avignon, Jamel et Naïm sont entendus séparément pour répondre des accusations à leur encontre. Les policiers cherchent la meilleure stratégie à adopter pour faire parler les deux garçons.
On sent que Naïm est quand même sans doute plus fragile que Jamel. Donc, on se concentre plutôt sur lui que sur Jamel.
Les enquêteurs de la police judiciaire ne se sont pas trompés. Naïm reconnaît très vite que le soir du 7 janvier, il s'est rendu chez Marie-Andrée avec Jamel pour la cambrioler.
On a maintenant une certitude, c'est que c'est bien eux deux qui sont rentrés dans la maison. Donc les choses sont quand même plus simples. Il suffit à ce moment-là de pousser de plus en plus sur les auditions et notamment sur Naïm pour qu'ils nous disent la réalité des choses.
En effet, les policiers sont sur le point de découvrir le macabre scénario. Car au bout de quelques heures d'interrogatoire, Naïm craque. Il livre alors une version détaillée des faits. D'une extrême violence.
Ils vont chez elle, ils rentrent dans la petite cour, donc ils se tapissent dans l'ombre, et au moment où elle va pour fermer ses volets, donc en fait, ils rentrent dans la maison. Jamel a un couteau qui va lui être passé, je crois, par mon client, qui va faire une recherche rapide dans la cuisine.
Là, il monte le son de la télévision pour couvrir les éventuels bruits. Et Naïm dit que lui, son rôle va être de fouiller la maison pour trouver l'or, l'argent, tout bien facilement monnayable. Et pendant ce temps, Jamel, lui, maîtrise la dame.
Et Jamel ne va pas se contenter d'immobiliser Marie-Andrée. Il fait montre d'un sadisme inouï. Durant plus d'une heure, il n'épargne aucune souffrance à la grand-mère.
Il va se livrer sur elle, à des simulacres d'égorgement, en lui passant la lame à plusieurs reprises sous la gorge, en lui passant la lame ensuite sur le corps, en allant avec la lame jusqu'en direction de son vagin. Donc on imagine cette femme à l'âge qui était le sien.
Jamel ne s'arrête pas là. En proie à un paroxysme de rage et de haine, il va se livrer sur la vieille dame à des actes particulièrement abjects.
À ce moment-là, il va prendre ce micro, parce qu'il y a une série de micros, je crois qu'il y a un micro qui est plus grand que les autres, il va prendre ce micro, et à ce moment-là, il va se livrer à des jeux sexuels.
Pour les enquêteurs, le récit de Naïm est cohérent. D'autant plus qu'il colle en tout point aux constatations faites sur la scène de crime. Dans une autre pièce, l'interrogatoire de Jamel s'avère plus laborieux. Le caïd de la cité n'est pas disposé à collaborer.
Dans un premier temps, Jamel, lui, va donner une version différente. Il va dire que c'est Naïm qui a frappé la dame et qui a commis les sévices, lui endossant le rôle qui est donné par Naïm en disant que c'est moi qui ai fouillé. Voilà. Et dans un deuxième temps, il va dire qu'aucun des deux n'a commis ces violences et que ce sont d'autres qui sont venus. Après, il ne sait pas ce qui s'est passé.
Au terme de leur garde à vue, Jamel et Naïm sont tous les deux inculpés pour meurtre et viol, avec torture et actes de barbarie. Pour la population d'Avignon, ces mises en examen sonnent comme un soulagement. Mais pas seulement.
La population d'Avignon est ulcérée, révoltée. D'abord, ils sont sidérés. Et puis ensuite, il y a cette espèce de sentiment de colère qui monte.
C'était vraiment trop loin, ça ne peut pas être des êtres humains. Je compare à des animaux. Je me dis, mais attends, non. Mais c'est, non, c'est pas possible. Ces actes de barbarie, on ne peut pas appeler ça autrement. Pourquoi ? Pourquoi ?
Tous attendent beaucoup du procès à venir, qui permettra peut-être de comprendre les raisons d'un tel acharnement. Quel est le rôle de chacun dans cette affaire ? Et qui est l'auteur des coups mortels ? Le 29 mars 2004, le procès de Jamel et Naïm s'ouvre devant la cour d'assises des mineurs du Vaucluse. Une foule d'anonymes se presse aux portes du tribunal de grande instance d'Avignon pour assister aux audiences. Et dans la salle, l'attention est à son comble.
L'ambiance de ce type de procès est une ambiance particulièrement lourde. Et il y a une tension qui est palpable, véritablement. Le côté des parties civiles est bondé. C'est rempli, il n'y a pas une chaise, il n'y a pas un siège de libre. Et de l'autre côté, du côté du box des accusés, vous avez quatre personnes assises. C'est-à-dire les parents qui sont là parce qu'ils sont tenus d'être là.
Dans le box des accusés, Jamel et Naïm se renvoient la balle. Chacun fait supporter à l'autre les actes les plus atroces. Un manège difficile à supporter pour les parties civiles. Et elles ne sont pas au bout de leur peine. Car Jamel, le supposé leader, joue clairement la carte de la provocation.
À un moment donné, très froidement, il a dit au juge, il lui a dit « Écoutez, je ne sais pas encore ce que je fais là, j'ai rien à faire dans ce box. » Alors là, vous voyez, j'ai eu quand même une montée d'adrénaline, parce que j'ai dit « Il a quand même un sacré toupet, ce garçon. »
Pour les experts psychiatres, appelés à la barre, le constat est accablant. Outre son alcoolisme chronique, il révèle chez Jamel une structure perverse et une intolérance à toute forme de frustration.
J'ai souvenance d'un des experts qui ne lui avait trouvé aucune circonstance atténuante et qui, à la question « Vous avez un pronostic pour l'avenir concernant Jamel dans une possible réinsertion sociale ?» Et il avait répondu « Oui, dans l'hypothèse où il y aurait une dictature, il pourrait parfaitement être employé comme bourreau. »
Naïm, quant à lui, va donner une toute autre impression. Lorsque la présidente l'interroge, il répond avec docilité. Et dans sa dernière déclaration à la cour, il exprime ses regrets à la famille.
Il a été très, très humble, très, très calme. Au contraire, il était très discret.
Là, c'était le mec, on le voyait, il était timide, il avait peur de Jamel, il était... Et comme il était à côté de Jamel et tout, il avait peur.
On sentait que le plus âgé était le meneur. C'était lui le meneur, alors qu'il s'en défendait, quoi, bon.
Au terme des 5 jours de procès, les avis sont unanimes. La version défendue par Naïm est plus crédible que celle de Jamel. Pour son avocat, Maître Lemaire, les dés sont jetés. Envers et contre tous, il se livre à la plaidoirie la plus difficile de sa carrière.
Au moment où je me lève pour plaider, pour moi, c'est une marée humaine qui est derrière moi. Des gens qui étaient presque collés à la barre de la défense, assis par terre, certains avec des écriteaux, des pancartes. Là, j'ai ressenti l'immense émoi qui avait créé dans Avignon cette affaire.
À l'issue du procès, Jamel est condamné à 30 ans de réclusion criminelle avec une peine de sûreté de 20 ans. Naïm, mineur au moment des faits, écope lui de 15 ans. En appel, la peine de Jamel sera transformée en perpétuité. En Avignon, 13 ans après les faits, tout le monde se souvient de cet horrible crime. Et la super mamie, tant aimée, reste dans toutes les mémoires. Pour les amis de Marie-André, la douleur causée par sa disparition est impérissable.
J'ai eu une grande chance, c'est d'en avoir fait une amie. Parce que avec toutes les deux, ça a fusionné tout de suite. Non, pour moi, c'était une grande dame.
Elle, c'était une amie, la seule amie que j'avais à Avignon. Une amie sur qui je pouvais compter. J'aurais bien aimé avoir une sœur, et bien je l'avais trouvée en Marie-André. Et je perds ma sœur.
Nous allons maintenant vous raconter le drame qui est arrivé au petit Nathan, 3 ans. Le corps de ce garçon a été retrouvé en 2007 à l'orée d'un bois. Un garçon qui était porté disparu déjà depuis plusieurs semaines. Et ses parents étaient soupçonnés par les gendarmes puisqu'il faisait l'objet d'une déclaration pour maltraitance. Voici ce document pour crime. Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir le destin tragique de Nathan, un petit garçon âgé de 3 ans. Une affaire qui va mobiliser les forces de l'ordre aux quatre coins du pays et bouleverser toute une région.
Nathan, il a dit, vous ne l'aurez jamais, je préfère le tuer de mes propres mains, mais il fait, vous ne le verrez plus jamais.
Nous sommes aux portes de la Provence, à Sisteron, une ville fortifiée de 7400 habitants, perchée à 485 mètres d'altitude entre les Alpes et la mer. Située sur les rives de la Durance, la commune bénéficie d'un climat exceptionnel, avec près de 300 jours de soleil par an.
C'est la clé. Sisteron est la clé de la Provence. Alors pourquoi la clé ? Parce que Sisteron est coupé en deux par, d'un côté le Dauphiné, de l'autre la Provence. Sisteron a du charme, beaucoup de charme.
En cette fin d'année 2006, à l'école maternelle de la ville, deux enfants de 4 et 5 ans, récemment scolarisés, attirent l'attention des enseignants.
Ce petit garçon et cette petite fille présentent des coups. Donc c'est l'institutrice qui va commencer à poser des questions et les enfants vont répondre, ils sont timorés, ils sont introvertis, mais ils vont quand même répondre que c'est la belle-mère qui leur donne des coups.
Alertés, les gendarmes de Sisteron se rendent au domicile familial. Les enfants résident avec Emmanuel, leur père de 33 ans, et Nathalie, leur belle-mère de 36 ans. parents de 3 enfants chacun, ils ont récemment fondé une famille recomposée.
Les gendarmes de Sisteron vont interroger Emmanuel et Nathalie de savoir qu'est-ce qui se passe.
Mais le couple ne donne aucune explication. Pourtant, sur place, un élément intrigue les gendarmes. Nathan, le plus jeune des 3 enfants d'Emmanuel, manque à l'appel. Interrogé sur cette absence, Emmanuel déclare que son fils de 3 ans a disparu depuis le mois d'août. Et son explication est pour le moins surprenante.
Nathan aurait été enlevé alors qu'il se trouvait avec lui du côté des moulins à Nice.
Il explique aux gendarmes de Sisteron que 2 hommes et une femme l'ont attaqué, l'ont roué de coups et lui ont pris l'enfant. Qu'il a reçu des menaces et que c'est la raison pour laquelle, 6 mois après, il n'a toujours pas signalé l'enlèvement de Nathan.
Emmanuel accuse Laetitia, la mère biologique du petit Nathan, d'être à l'origine de cet enlèvement. Les gendarmes n'en reviennent pas. Comment se fait-il que le père de famille n'ait entrepris aucune démarche pour récupérer son fils ? Nathan a-t-il fait l'objet d'un enlèvement, comme le prétend Emmanuel ? Se trouve-t-il actuellement chez sa mère ? Ou la vérité est-elle beaucoup plus sordide ? À Sisteron, les gendarmes viennent de s'apercevoir de la disparition de Nathan. Immédiatement, le parquet de Digne-les-Bains ouvre une information judiciaire. Les enquêteurs vont dès lors tout mettre en œuvre pour retrouver l'enfant. Ils commencent par vérifier l'hypothèse de l'enlèvement avancée par le père.
Ils font une enquête dans le Nord, d'abord chez la maman, chez Laetitia. Et ses parents qui disent que c'est absolument faux, que c'est complètement inventé de toutes parts et que jamais ils n'ont essayé de reprendre Nathan.
J'ai été perquisitionnée, mais ma famille pareil, pour voir si j'avais des jouets, des vêtements d'enfants, de garçons, qui se sont bien rendus compte que lui commençait à raconter n'importe quoi. Et puis le fait que moi, de mon côté, tout le monde savait très bien que Nathan, ça faisait un an que j'avais pas de nouvelles.
En se penchant sur l'histoire du couple, les enquêteurs apprennent que Laetitia et Emmanuel se sont installés à Nice en 2003. Mais très vite, les choses dégénèrent. Emmanuel plonge dans les affres de l'alcool et de la drogue et commence à violenter Laetitia.
Je suis rentré du travail à minuit. Il y avait bien bu, parce qu'il y avait quand même manqué de bouteilles d'alcool fort, sans compter les bières à côté, et puis ce qu'il consommait aussi en drogue et stupéfiants. Donc ça a été des coups toute la nuit, devoir dormir par terre. Et le lendemain matin, il m'a dit « tu rentres pas tant que tu ramènes pas de pognon ».
Le couple se sépare en juin 2005. Leur fils, Nathan, est alors âgé de 2 ans.
Il s'est enfui sous des coups et des menaces particulièrement violentes. Elle a dû partir, elle a pris le train sans billet. En fraude, elle est rentrée dans le train, donc elle ne pouvait effectivement pas, dans ces conditions, emmener Nathan. Disons qu'elle s'est sauvée, quoi. Elle s'est sauvée pour sauver sa peau et se mettre en sécurité personnellement.
Dès lors, Emmanuel empêche tout contact entre la mère et son fils. L'homme va même jusqu'à proférer de terribles menaces à l'encontre de l'enfant.
Nathan, il a dit, vous ne l'aurez jamais, je préfère le tuer de mes propres mains, mais il fait, vous ne le verrez plus jamais.
Dans les mois qui suivent, la mère de famille va tout faire pour essayer de retrouver et protéger son fils.
Elle va envoyer aux services sociaux de Nice un courrier au terme duquel elle se dit très inquiète pour Nathan et elle demande qu'on lui donne suite et savoir où est son fils. Elle craint qu'un jour il arrive un malheur.
Mais en novembre 2005, Emmanuel fait la connaissance de Nathalie. Les deux amants quittent la ville de Nice avec leurs enfants et posent leurs valises à Villars-sur-Var, un petit village dans les Alpes-Maritimes. L'année suivante, le couple déménage de nouveau à Sisteron. Les convocations des services sociaux restent lettre morte.
L'assistante sociale, à plusieurs reprises, elle lui a demandé d'avoir un rendez-vous donc avec tous les enfants et qui s'est jamais fait parce qu'à chaque fois, elle se retrouvait avec des rendez-vous néants parce que lui, il ne se déplaçait pas. Ou si elle allait au domicile, bien sûr, c'était porte close.
Pour les gendarmes, Emmanuel cache quelque chose. Les enquêteurs se concentrent donc de nouveau sur le père de famille et interrogent son entourage.
En se rapprochant des proches de la famille, on comprend que Emmanuel a expliqué que Nathan était chez une tante. Alors il faudrait savoir, on lui pose la question à Emmanuel, on le met devant ses contradictions, savoir est-ce que Nathan a été enlevé ou alors est-ce qu'il est chez une tante.
Et ce n'est pas la seule contradiction d'Emmanuel. Son téléphone fournit aux enquêteurs un élément matériel qui invalide formellement la thèse du kidnapping.
Il déclenche effectivement un relais à Anotte, qui est un autre village du haut pays ou du moyen pays, alors qu'il prétendait que ce jour-là, il se trouvait à Nice.
Alors, pour quelle raison le père de famille a-t-il menti? Pourquoi fuit-il les services sociaux? Quel rôle a-t-il joué dans la disparition de son fils? Et surtout, où se trouve le petit Nathan? Cela fait plusieurs semaines que les gendarmes tentent de comprendre ce qui est arrivé à Nathan. Toutes les recherches entreprises étant infructueuses, leurs soupçons se portent naturellement sur Nathalie et Emmanuel. Ils décident donc de s'intéresser de plus près au jeune couple.
Apparemment, le courant passe bien entre eux. Pour lui, Nathalie, c'est la femme de sa vie. Il expliquera, il aime Nathalie, il voit dans la recomposition familiale une famille quasi idéale.
Pourtant, installés à 8 dans un 3 pièces, les conditions de vie sont particulièrement difficiles.
Ce couple vit dans une promiscuité assez grande, avec la difficulté d'élever les enfants.
Ils vivent d'allocations familiales, avec 6 enfants au domicile. Personne ne travaille.
À ce contexte matériel précaire s'ajoute l'addiction d'Emmanuel.
C'est un couple qui à mon sens, apparaît pathologique du fait au moins des problèmes d'alcool d'Emmanuel, avec Nathalie qui doit gérer ses propres enfants et qui apparemment développe une agressivité importante envers les enfants d'Emmanuel.
En effet, à Villars-sur-Var, dans l'immeuble précédemment habité par le couple, plusieurs témoins se font l'écho de mauvais traitements infligés à Nathan.
Figurez-vous qu'on l'enfermait à la cave. Il a eu passé des nuits à la cave, le petit. On lui reprochait de faire pipi au lit.
Lorsque les voisins proches sont auditionnés, c'est vrai que bon, on se pose encore plus de questions.
La témoin de Palier, qui habitait l'appartement à côté, dit « J'entendais la tête du petit taper par terre et je ne sais pas comment Nathalie ne s'est pas cassé les mains en tapant le petit ».
Le petit Nathan aurait-il été battu à mort? Les enquêteurs veulent en avoir le cœur net. Ils réalisent des opérations de police technique et scientifique dans l'ancien domicile du couple et passent l'appartement au révélateur de sang.
Ils vont donc se déplacer dans l'appartement, faire des investigations au niveau des pièces, au niveau du couloir, et ils vont retrouver des traces de sang.
Sans attendre le résultat des analyses, le procureur de la République de Digne-les-Bains ouvre une information judiciaire pour meurtre sur mineur de moins de 15 ans. Emmanuel et Nathalie sont interpellés et placés en garde à vue. Les gendarmes vont-ils enfin découvrir la vérité ? Le sang retrouvé dans l'appartement est-il celui de Nathan ? Et surtout, l'enfant de 3 ans est-il toujours en vie ? Nous sommes en avril 2007. Cela fait près d'un an que personne n'a eu de nouvelles de Nathan. Les enquêteurs mettent donc la pression sur Emmanuel et Nathalie pour enfin obtenir un début d'explication.
Emmanuel, lors de la garde à vue, va toujours rester sur sa position et va soutenir la thèse de l'enlèvement. Nathalie, quant à elle, en garde à vue, va craquer.
Il y aurait eu, volontaire ou pas, des actes de violence de la part d'Emmanuel à l'encontre ou à l'égard de Nathan.
En prenant connaissance de ces accusations, Emmanuel va à son tour mettre en cause Nathalie.
Emmanuel explique que Nathalie avait une fâcheuse tendance à frapper trop les enfants.
Nathalie et Emmanuel s'accusent l'un l'autre. Mais au final, personne ne semble en mesure d'expliquer où est Nathan. Alors que le couple est mis en examen, un témoin essentiel fait son apparition dans le dossier. Le 8 mai 2007, la nièce de Nathalie demande à être auditionnée.
Cette jeune fille va expliquer que Nathalie lui a parlé et lui a dit qu'il s'était passé un drame et que Nathan avait reçu des coups de la part d'Emmanuel et que le soir il se sentait très très mal, il pleurait et que finalement elle avait compris que c'était la fin.
L'enfant serait donc mort suite au coup de son père. Face à ce témoignage accablant, Emmanuel va alors s'expliquer. Pour lui, il s'agit d'un simple accident lors d'une partie de football.
Il a manqué le ballon, le père, et il a frappé le petit en plein ventre.
Devant l'état critique de Nathan, Emmanuel aurait voulu appeler les secours. Mais craignant de se voir retirer ses enfants, Nathalie l'en aurait empêché. Le couple prend alors une terrible décision.
Ils vont coucher Nathan sur le lit pendant 2 jours.
On a laissé agoniser un petit garçon de 3 ans sans lui porter secours jusqu'à ce qu'il meure. Il n'est pas mort à la minute. Il est mort au bout de plusieurs heures de souffrance atroce.
Il a senti venir la mort, ce gamin. Hein. Moi, j'y crois à ça. Même à 3 ans, 3 ans et demi, on sent venir la mort. Ce gamin a senti venir la mort.
Au bout de ce long calvaire, toujours selon les dires d'Emmanuel, Nathalie aurait échafaudé la thèse de l'enlèvement et décidé de faire disparaître le corps.
Il va être transporté dans une propriété terrienne dont dispose la famille de Nathalie.
Il a été enterré comme ça. Même. Il n'y avait pas de cercueil, ni de linceul, ni rien du tout. Il a été mis dans la terre. Hein. Tac.
Si les enquêteurs savent maintenant où se trouve le corps de l'enfant, ils doutent de la version donnée par le père quant aux circonstances du drame. Emmanuel a-t-il dit toute la vérité ? S'agit-il, comme il le prétend, d'un simple accident ? Et comment expliquer un tel manque d'humanité à l'égard d'un enfant de 3 ans ? Nous sommes à Villars-sur-Var, le 10 mai 2007, à l'endroit précis où le corps de Nathan a été enterré. Les gendarmes ont organisé un transport sur les lieux en présence d'Emmanuel et de Nathalie.
Sur place, eh bien, on va retrouver les restes de Nathan enterrés sous 60 cm de terre.
Face à l'horreur, le couple meurtrier ne peut retenir son émotion.
Nathalie a dit qu'elle ne voulait pas voir ce... Elle n'a pas eu, disons, la possibilité, la force, donc, de regarder. Et Emmanuel, donc, apparemment, a craqué devant cette scène.
Pour la mère de Nathan, cette découverte signe la fin de tous les espoirs. Emmanuel a réalisé son pire cauchemar. Plus jamais, elle ne reverra son fils.
Il m'a volé une partie de ma vie, il m'a volé ma vie aussi, façon de parler, parce que en me retirant Nathan, il m'a retiré une partie de moi aussi.
Le lendemain de l'exhumation du corps, une autopsie est pratiquée à l'Institut médico-légal de Nice. Les résultats sont loin d'étayer la thèse de l'accident.
L'enfant présente des polytraumatismes, des traumatismes crâniens multiples, deux fractures à l'humérus, au radius, membre supérieur. Voilà, donc les questions se posent de savoir comment ça a pu se passer et qu'est-ce qui est arrivé à Nathan.
Mais concernant ces nombreuses lésions, Emmanuel a une explication.
Lui, il disait que son bras qui était retourné, que c'était dû au transport du corps, parce qu'il l'avait mis dans un sac, qu'il l'avait, du fait de le manipuler, de le monter là où il l'avait mis. Et, pour lui, c'était ça, c'était à cause de ça que son bras il était cassé.
Afin de vérifier ces allégations, une nouvelle expertise est diligentée. Mais les conclusions du médecin légiste sont formelles.
L'expert dit que ces blessures ne sont pas concomitantes au transport de l'enfant, comme le disait Emmanuel, mais préexistaient et avaient été données pendant que l'enfant était vivant.
Le constat est sans appel. Nathan a été sauvagement brutalisé. Une violence rarement observée sur un enfant si jeune et qui choque tous les intervenants du dossier.
C'est le souffre-douleur, c'est dans toute sa splendeur, quoi. Je ne sais pas comment des humains peuvent en arriver là. Ça dépasse l'entendement, quoi. Même pour des gens qui sont rompus à ce genre de truc.
Comment expliquer une telle barbarie? Quel a été le rôle d'Emmanuel et de Nathalie dans la mort de l'enfant? Et qui en est le responsable? Autant de questions auxquelles le procès à suivre tentera de répondre. Le 23 juin 2010, 4 ans après les faits, le procès d'Emmanuel et de Nathalie s'ouvre au tribunal de grande instance de Digne-les-Bains. Laetitia, la mère de Nathan, a fait près de 1000 km pour connaître la vérité.
Moi, j'aimerais savoir, mais j'oserais dire, même minute par minute, ce qui s'est passé ce jour-là. Je pourrais être une souris et remonter le temps. Rien que savoir ce qui s'est passé ce jour-là et comment il est parti.
La partie civile n'est pas la seule à vouloir comprendre les tenants et les aboutissants de ce terrible drame.
On avait l'opinion publique qui était dans la salle. La salle était comble et c'était extrêmement difficile. L'animosité était là, c'était tendu.
Malgré la pression ambiante, Emmanuel ne donnera aucune explication. Avachi dans le box des accusés, radicalement sevré depuis son incarcération, le père de famille est sous camisole chimique.
Il était atone, il était amorphe, avait du mal à s'exprimer, il avait l'air d'être ailleurs complètement, et je pense que les traitements médicamenteux étaient pour quelque chose dans cet état-là.
De son côté, Nathalie livre une toute autre impression.
Elle est très froide. Elle parle un peu plus. Mais elle le charge. La main d'or, c'est lui. Celui qui a transporté le corps, c'est lui. Celui qui a manqué le ballon, lui tapé dans le ventre, c'est lui. Celui qui a tapé le plus fort, c'est lui.
Mais pour l'avocat des parties civiles, Le scénario est loin d'être aussi simple.
L'enquête prouve qu'ils étaient tous les deux ensemble pour commettre tous les faits et arriver à cette conclusion-là. Ils étaient solidaires tous les deux.
Les avocats d'Emmanuel et de Nathalie appuient leur stratégie de défense sur le profil psychologique des accusés.
Ils ont parlé de leur passé. Ils ont parlé de leur jeunesse manquée. Eux aussi ont eu une jeunesse des plus déplorables. Quoi.
À l'issue des plaidoiries, les jurés tranchent. Emmanuel et Nathalie sont respectivement condamnés à 15 et 12 ans de réclusion criminelle. Un verdict qui laisse de nombreuses questions sans réponse.
Il y a des zones d'ombre, il y a des zones d'ombre. Qui a tapé le plus souvent, qui a dit de faire quoi, qui a les fractures et tout, qui, je veux dire, c'est pas net, c'est pas établi. Il n'est pas établi que le père est plus tapé que la femme, il n'est pas établi que la femme est plus tapée que le mec. Pourquoi ?
Dix ans après avoir quitté Emmanuel, Laetitia ne se pardonne toujours pas d'avoir dû abandonner Nathan. Pour la mère de famille, pas un jour ne passe sans penser à son fils.
Quand je vois les enfants des copines, moi je me dis c'est des bons moments qu'elles arrivent, ils peuvent avoir, et puis que ben, moi on m'en a privé pour tout le temps.
Nous allons partir maintenant quelques années en arrière, le 15 avril 2011. Ce jour-là, une jeune fille pousse la porte de la gendarmerie. Elle vient signaler la disparition de sa mère, Colette, âgée de 50 ans. Colette travaille dans un supermarché et le soir, elle a pris la direction de son domicile et depuis, plus aucune nouvelle. Voici ce document pour crime. Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir l'histoire d'une mystérieuse disparition. Une sombre affaire de famille aux multiples rebondissements qui a bouleversé la vie tranquille d'une petite ville de Provence.
Je me dis, elle a été enlevée, elle ne peut plus partir, elle est prisonnière, elle est peut-être maltraitée, donc on s'invente les pires choses, quoi.
Nous sommes à Lorgues, une petite commune de 9000 habitants dans le département du Var. Cette cité médiévale est située au cœur de la Provence, à mi-chemin entre la Méditerranée et les gorges du Verdon, et à une dizaine de kilomètres de Draguignan.
C'est un village très attractif où beaucoup de gens viennent pour passer leur retraite en venant de l'étranger. C'est le plus joli marché du coin, et puis ben, voilà, c'est un village où il fait bon vivre.
Le 15 avril 2011, Séverine, 18 ans, une habitante de Lorgues, attend sa mère à la sortie du lycée. Il est 15h, comme tous les vendredis, Colette doit venir la chercher. Mais les minutes passent et la mère de famille n'est toujours pas là. Inquiète, Séverine l'appelle en vain.
Elle n'a pas de contact, en tout cas au téléphone avec sa mère. Et puis, on pense à quoi ? On pense à l'accident de voiture, on se dit que si elle avait eu un imprévu, elle aurait laissé un message. Il n'y a pas de message, c'est le silence total.
L'adolescente décide alors d'avertir Alexandre, son frère aîné.
Quand ma sœur m'a appelé, Séverine, pour me dire que ma mère n'était pas allée la chercher alors que ce n'est pas dans ses habitudes, ben, là, je me suis dit qu'il y avait un problème, quoi.
Alexandre et Séverine se retrouvent très vite à La Garrigue, la villa où vit leur mère. Ce qu'ils découvrent, en arrivant, ne les rassure pas.
Il y a le véhicule de la mère qui est garé à sa place habituelle sur la propriété où ils habitent. Et dans ce véhicule, on va y trouver le sac, le téléphone, les clés, Bref, pas d'explication sur la présence de ce véhicule et sur l'absence de la maman.
Les enfants entrent alors dans la maison et rien ne semble à première vue expliquer la disparition soudaine de leur mère.
Il n'y a aucun désordre dans la maison, il n'y a rien de particulier. Vraiment, on est dans l'inexplicable.
À 17h, en désespoir de cause, la fratrie prévient les gendarmes de l'orgue. Mais sur place, aucun élément ne permet d'en savoir plus. L'hypothèse d'un départ volontaire paraît très improbable.
C'était impossible qu'elle ait pu disparaître comme ça sur un coup de tête. Notamment parce qu'elle était le pilier de sa propre famille, parce qu'il n'y avait rien d'autre et que les enfants pouvaient compter sur personne d'autre que sur elle.
D'autant plus que le week-end suivant, Colette avait des projets familiaux qu'elle n'aurait abandonnés pour rien au monde.
Était organisé dans cette famille l'anniversaire d'une fille qui devait avoir lieu immédiatement. Et les préparatifs de l'anniversaire étaient tout à fait concrets et on devait se retrouver pour fêter l'anniversaire.
Comment expliquer cette soudaine disparition ? Colette a-t-elle eu un accident ? Ou plus inquiétant encore, s'agit-il d'un enlèvement ? Commence alors pour les enquêteurs un véritable jeu de pistes. À l'orgue, 24 heures après le signalement de sa disparition, Colette n'a toujours pas donné signe de vie. Les gendarmes jugent la situation suffisamment inquiétante pour déclencher des recherches dans les environs.
On va se mettre à faire les recherches traditionnelles, c'est-à-dire les buissons, les puits, les rivières, tous les endroits où on peut éventuellement trouver un corps de quelqu'un qui soit voulu volontairement suicider, soit a été victime.
Malgré les efforts déployés, les recherches restent vaines. Chez les proches de Colette, la tension monte.
Je me dis, elle a été enlevée, elle ne peut plus partir, elle est prisonnière, elle est peut-être attachée dehors. Tout ce temps, voilà, elle est peut-être maltraitée, donc on s'invente les pires choses, quoi. C'est horrible.
Les gendarmes veulent absolument percer le mystère de cette affaire. Et pour mieux cerner sa personnalité, il commence par interroger ses quatre enfants.
Quand on se réunissait, c'était vraiment... c'était que des rigolades tout le temps. Elle faisait tout pour que tout soit nickel.
Je pense que c'est une mère comme on aime tous en avoir. Une mère aimante, attentive, attentionnée, qui ferait beaucoup pour les enfants.
Deux fois divorcée, à 50 ans, Colette consacre l'essentiel de sa vie à ses enfants. Elle travaille comme caissière au supermarché de l'Orgue et subvient seule à leurs besoins.
Ma mère, en fait, elle travaillait, c'était ses enfants, le travail et la maison. Basta. Elle faisait rien de particulier, elle sortait pas beaucoup, elle n'avait pas beaucoup d'amis. Elle avait sa petite vie comme ça, quoi.
Colette est une femme discrète qui mène une existence des plus paisibles et visiblement, rien ne laissait présager sa disparition. Pourtant, au cours de l'enquête de proximité, Bernard, son voisin, va susciter de lourdes interrogations.
Bernard, il commence à dire que de toute façon, c'est facile pour faire disparaître quelqu'un, parce qu'il suffit juste de mettre un coup derrière la tête ou alors de lui faire une injection d'insuline ou voilà pour je sais pas, le mettre dans le coma ou l'endormir. Ouais.
Le discours de Bernard attire les soupçons. Et lors de son audition par les gendarmes, l'homme adopte un comportement des plus étranges.
Il va donner trois versions différentes de son emploi du temps. Il va dans un premier temps dire qu'il a regardé un film ou une émission de télévision qui en réalité n'existait pas ce jour-là. Il va dire qu'il était tout seul chez lui. Ensuite, il donne une troisième version qui est tout aussi invraisemblable que les premières. Donc ce comportement forcément alerte.
Bernard est-il mêlé de près ou de loin à la disparition de Colette ? Pour les enquêteurs, l'hypothèse est plus que probable. D'autant plus que sa relation avec Colette était pour le moins ambiguë.
Je l'avais vu pour l'avoir invité ici une fois chez moi avec ma mère. elle était venue avec lui et tout, qu'ils s'entendaient bien, quoi. Et ça se voyait qu'il était attiré par ma mère, ça se voyait, quoi.
On se demande s'il n'y a pas eu une petite crise d'amoureux. En plus, il a un casier judiciaire.
En effet, en 1999, Bernard a été condamné à 6 ans de prison pour tentative d'homicide. Il avait alors tiré au fusil de chasse sur sa petite amie. Bernard est donc un suspect très sérieux pour les gendarmes qui perquisitionnent son domicile.
Ils cherchent du sang, ils cherchent tout indice habituel en la matière pour essayer de savoir si quelque part on a des traces de violence, d'agression, etc.
Seulement, aucun indice ne vient incriminer le voisin. Les gendarmes poursuivent donc leur enquête et épluchent tous les appels téléphoniques de Colette. Et ils y font une nouvelle découverte.
Là, ils voient qu'il y a plusieurs coups de téléphone qui sont passés envers Sylviane, la tante de mes sœurs. De quelques secondes à quelques minutes.
Sylviane est l'ex-belle-sœur de Colette, la sœur de son premier mari. Les deux femmes ont gardé de bonnes relations, au point qu'en 2008, elles se sont associées pour créer une SCI et acheter la Garrigue, cette villa avec piscine à la sortie de l'orgue. Mais entre elles, les disputes étaient ces derniers temps de plus en plus fréquentes.
Ça a toujours été un peu « je t'aime moi non plus », quoi, toutes les deux. Parce que souvent, Sylviane, elle faisait des coups de travers. Et quand même, ils arrivaient à se parler, mais c'était que des petites querelles, quoi. C'était pas méchant, mais c'était assez souvent quand même.
Les gendarmes ne veulent négliger aucune piste. Pas même celle d'une banale dispute. Alors, ils interrogent Sylviane.
Elle dit qu'elle n'a pas vu ma mère. Elle dit que voilà qu'elle l'a juste appelée pour la SCI, mais qu'elle n'en sait pas plus, quoi.
Après audition, Sylviane, comme Bernard, semble au-dessus de tout soupçon. Nous sommes 48 heures après la disparition de Colette, et l'enquête piétine. Pourquoi la mère de famille n'est-elle pas venue chercher sa fille à l'école ce 15 avril 2011 ? Lui serait-il arrivé malheur ? Et où se trouve-t-elle actuellement ? Le 21 avril 2011, 6 jours seulement après la disparition de Colette, une autre affaire défraye la chronique. À Nantes, 5 membres d'une même famille, les Dupont de Ligonnès, sont retrouvés assassinés dans leur maison. Le père, Xavier, est introuvable.
Dupont de Ligonnès, c'était vraiment le feu d'hiver national, l'équivalent de l'affaire Grégory 30 ans ou 30 ans auparavant.
Vous allumiez la télévision, on parlait de Dupont de Ligonnès, vous regardiez dans une maison de la presse les différents journaux exposés, il y avait la photo de Dupont de Ligonnès, etc., etc. Donc c'était quelque chose qui vendait vraiment beaucoup.
C'est dans cette région qu'a disparu depuis le 14 avril Colette de Rome. Cette femme de 50 ans résidait à l'Orgue, un village où Xavier Dupont de Ligonnès a lui aussi vécu.
Et les médias vont aller plus loin, en parlant d'une supposée relation amoureuse. Alors s'agit-il d'un fantasme de journaliste ou Colette connaissait-elle vraiment l'homme le plus recherché de France ?
On allègue le fait qu'il aurait eu une relation avec Colette de Rome, elle disparaît et on se demande dans quelle mesure elle ne s'est pas enfuie avec lui ou il ne lui est pas arrivé quelque chose parce qu'il en aurait été l'auteur.
Xavier Dupont de Ligonnès serait-il vraiment à l'origine de la disparition de Colette ? Pour les gendarmes, aucune piste ne doit être écartée. Ils s'empressent de présenter les photos de Xavier Dupont de Ligonnès aux proches de Colette.
Ce mec-là, on ne connaissait pas, hein. Moi, je l'avais jamais vu, j'ai jamais entendu parler, quoi. Même si à moi, ma mère, elle me l'aurait pas dit, elle aurait dit à mes sœurs, elle en aurait parlé, quoi.
Aucun témoignage probant, pas de contact avéré. 3 semaines après la disparition de la mère de famille, les gendarmes sont au point mort.
Y a rien, on n'a rien. C'est comme, comme si ils commençaient quelque chose et au final, ils creusent, mais ils trouvent rien. Donc du coup, c'est comme si on repartait à zéro, quoi.
Mais le 15 mai 2011, un mois jour pour jour après la disparition de Colette, les gendarmes de l'orgue reçoivent un appel d'urgence. Sur les hauteurs d'Ops, à 30 km de là, un corps a été retrouvé.
Par hasard, des gens qui se promènent vont trouver, vont se promener sur le bord d'une route, vont être attirés par une odeur assez importante et vont trouver, vont voir, je crois, un morceau de pied ou une chaussure qui dépasse d'un tas de pierres.
Dépêchés sur les lieux, les gendarmes découvrent un cadavre en état de putréfaction avancée, trop dégradé pour permettre une identification formelle. Mais les effets personnels trouvés sur place ne laissent pas de doute. Il s'agit d'un corps de femme. Tout de suite, les enquêteurs font le rapprochement avec Colette et convoquent ses enfants à la gendarmerie.
Ils nous disent, ben voilà, on a retrouvé en fait un corps et on aimerait vous faire identifier les photos pour voir si vous reconnaissez quelque chose et tout. Là, c'est dur parce qu'en fait, dès qu'ils tendent la première photo, donc c'est une botte de ma mère. Et là, mes sœurs, elles partent en larmes de suite, quoi.
Pour les gendarmes, cette découverte signe le début d'une nouvelle enquête. Dès lors, il ne s'agit plus d'une disparition inquiétante, mais bien d'un crime.
On a un corps, on a des effets personnels qui sont retrouvés. Là, les enquêteurs ont la certitude que quelqu'un est l'auteur d'un meurtre.
Le 18 mai 2011, le parquet de Draguignan ouvre une information judiciaire pour assassinat. L'affaire fait la une des médias. Et à l'orgue, elle occupe toutes les conversations.
On retrouve son cadavre dans un état qui frappe les esprits. Parce que on l'a pas trouvé tout de suite, c'est pas anodin ça. Donc là, toute cette ambiance de ce village est complètement perturbée.
Les habitants s'interrogent. Qu'est-il arrivé à Colette? Comment cette femme sans histoire a-t-elle pu connaître une fin aussi tragique? Et qui est l'auteur de ce terrible meurtre? À l'orgue, voilà maintenant près d'un mois que le corps de Colette a été retrouvé. Et alors qu'aucune piste ne semble émerger, un fait surprenant va relancer l'enquête. Sylviane, l'ex-belle-sœur de Colette, tente de se suicider.
Je crois qu'elle écrit une lettre à son fils, qu'elle se noie dans l'alcool et qu'elle va pour se défenestrer mais qu'elle n'y arrive pas.
Alors que Sylviane est hospitalisée, les gendarmes examinent la lettre adressée à son fils David. Et là, plusieurs éléments attirent leur attention.
Cette lettre, elle contient des aveux. Elle contient des aveux, pas directs, mais voilés, puisqu'elle dit « Moi, quand on me pousse dans mes derniers tranchements, je suis capable d'aller jusqu'au bout. »
Ce qui est sûr, c'est que dans sa lettre, les gendarmes voient qu'elle est mêlée en fait à cette histoire. Donc du coup après il se penche sur elle et sur aussi David.
Sylviane serait-elle impliquée dans le meurtre de Colette? Pour le savoir, les gendarmes interrogent David. D'emblée, le jeune homme défend sa mère et livre un bien curieux alibi.
Il leur dit que en fait ce soir-là, sa mère était venue chez lui. Et qu'il devait descendre à Draguignan, je crois, un truc comme ça. Et qu'il serait tombé en panne d'essence sur un parking et qu'il serait remonté à pied, en fait, d'en bas de Draguignan jusqu'à l'orgue, en fait.
Étrangement, Sylviane n'a jamais évoqué cette épopée nocturne. Interrogée de nouveau, elle prétend avoir simplement oublié de la mentionner. Mais les gendarmes ne sont pas dupes.
Tout ça, ça colle pas, parce que du coup, les enquêteurs vont vérifier si dans ces zones-là, le téléphone a déclenché. Ils vont interroger les différentes voitures qui sont passées, pour savoir si on a croisé des piétons la nuit.
Non. Pour les enquêteurs, c'est évident. La mère et le fils ont quelque chose à cacher. Ils vont donc s'intéresser de plus près aux conflits qui régnaient entre les deux femmes. Des conflits principalement liés à la SCI dont Sylviane exerçait la gérance.
Sylviane tournait de l'argent sur le compte de la SCI pour ses propres biens personnels, quoi. Et ça, ma mère, elle n'était pas d'accord du tout, quoi. Elle lui avait dit, soit t'arrêtes ça de suite, soit je prends la gérance, et si tu veux pas, ben, je vais engager une procédure pour t'enlever de la gérance et prendre moi la gérance de la SCI, quoi.
Sylviane aurait-elle cherché à se venger de Colette ? Ce qui est sûr, c'est qu'entre les deux femmes, la tension était devenue insoutenable. D'ailleurs, un mois après la découverte du corps de Colette, Sylviane tient encore à son égard des propos particulièrement virulents.
Il y a à la fois des échos téléphoniques, puis des propos rapportés par des témoins dans lesquels elle commence, c'est plus fort qu'elle, à revendiquer. C'est une bonne chose que Colette soit morte.
Intrigués par cette attitude, les gendarmes se penchent sérieusement sur la personnalité de Sylviane. Là encore, l'ex-belle-sœur de Colette apparaît comme une femme autoritaire et impitoyable.
Elle veut toujours montrer aux hommes qu'elle est capable de se débrouiller, de faire le même boulot que les hommes, de toute façon, et c'est ce qu'elle fait. Elle fait beaucoup de petites maçonneries et elle s'invente, quoi. Elle dit qu'elle n'a pas besoin d'eux, voilà, quoi. Et elle est dure.
Schwarzy, c'était son surnom, Schwarzy. Donc ça montrait bien que c'était une femme forte.
Pour les enquêteurs, Sylviane a tout de la coupable idéale. Un mobile, un comportement suspect et un profil austère. Mais rien ne permet à ce jour de la confondre. Alors, pendant de longs mois, les gendarmes continuent d'écouter toutes les conversations entre Sylviane et son fils, David.
Mis bout à bout, les écoutes disent beaucoup de choses. Ils disent beaucoup de choses et nous laissent penser que quand même, ils étaient parfaitement au courant de ce qui s'est passé.
Les écoutes vont-elles enfin permettre aux enquêteurs de résoudre cette affaire ? David et Sylviane sont-ils les auteurs du meurtre de Colette ? Et dans ce cas, quelles sont les responsabilités de chacun ? À l'orgue, plusieurs mois se sont écoulés depuis la découverte du corps de Colette. Les enquêteurs n'ont toujours pas de certitude quant aux auteurs de ce crime. Mais leur long travail d'écoute va bientôt porter ses fruits. Visiblement, les relations entre David et sa mère se dégradent.
Il lui dit au téléphone que si jamais les policiers viennent l'interroger, lui, il va dire la vérité. Et là, il le menace en lui disant que ça ne va pas se passer comme ça et qu'il faut qu'il tienne sa langue.
Les gendarmes, ils se disent là, il faut intervenir avant qu'il y ait un drame, quoi.
David et Sylviane sont interpellés et placés en garde à vue. En l'absence d'éléments matériels, les gendarmes n'ont pas d'autre choix que d'obtenir des aveux.
Les enquêteurs, ils vont sentir tout de suite que David est plus faible que Sylviane. En tout cas, il est plus rongé par le remords, ça c'est une certitude. Donc ils vont se dire, c'est David qui va nous aider.
En effet, David va rapidement livrer aux gendarmes un déroulé détaillé du 14 avril, date de la disparition de Colette. Ce jour-là, Sylviane serait arrivée chez eux aux alentours de midi.
Elle a dit à David, je vais faire venir Colette à la maison et tout, parce qu'on va discuter de la SCI, parce que ça va pas, il y a un médiateur qui doit venir ici et là.
Colette arrive chez David vers 15h. Ce dernier prend à peine le temps de la saluer et rentre dans la maison, laissant sa mère et sa tante discuter à l'extérieur.
Apparemment, Colette est amenée directement par Sylviane dans le garage. Sylviane va nous dire que c'est Colette qui lui aurait mal parlé, ce qui fait qu'elle aurait dû élever le ton, qu'à un moment elle lui a sauté dessus. Enfin, et qu'elle va la violenter de manière à ce qu'elle soit un peu sonnée pour pouvoir l'étrangler.
Le temps passe et dans la maison, David s'inquiète de ne pas voir sa mère revenir.
Il dit qu'il a attendu un quart d'heure 20 minutes et qu'après il est ressorti, qu'il a vu sa mère la bave aux lèvres, le visage transformé, une rage démentielle avec des gants à la main et une corde. Et qu'elle était en train de dire, bah, ça y est, je l'ai fait ici et là. Et que lui serait arrivé dans le hangar et qu'il aurait vu ma mère allongée par terre.
Mis devant le fait accompli, David va se faire le complice de sa mère.
Avec Cyliane, ils vont décider de ce qui va se passer par la suite. Parce qu'elle veut très vite lui faire comprendre que maintenant que ça s'est passé chez lui, il est impliqué.
Alors, petit à petit, le scénario de la disparition de Colette se dessine.
Il pousse le corps au fond du garage et il recouvre ma mère avec une couverture qui servait pour le chien.
À ce moment-là, on est en fin d'après-midi, mais il décide de se débarrasser du corps un peu plus tard, à faveur de la nuit.
En attendant le soir, la mère et le fils finissent de perfectionner leur plan. Le corps sera jeté dans le lac de Sainte-Croix, de manière à ce qu'il ne soit jamais retrouvé. Et pour la voiture de Colette, Sylviane a la solution.
Elle a pris une grosse parka militaire que son fils avait, pour pas qu'on la reconnaisse. Elle a mis la capuche et tout. Et elle a pris la voiture de ma mère et elle l'a ramenée donc à la maison.
Quelques jours plus tard, à la nuit tombée, David et Sylviane chargent le corps dans le coffre de la voiture et prennent la route pour le lac de Sainte-Croix. Mais tout ne se passe pas comme prévu.
Sur la route, ils ont un problème de batterie. Et ayant peur de ne pas repartir du lac, ils ont décidé de balancer le corps comme ça et de le recouvrir ensuite de pierre.
Un an après les faits, les enquêteurs viennent de découvrir la vérité. Sylviane et David sont mis en examen en attendant d'être jugés. Le procès permettra-t-il de comprendre les motivations profondes de ce crime? Le meurtre de Colette a-t-il été prémédité? Mère et fils vont-ils assumer leurs responsabilités devant la cour? Nous sommes le 21 janvier 2014 à la cour d'assises du Var, soit près de 3 ans après les faits. Dès le premier jour du procès de Sylviane et de David, tout l'enjeu est de déterminer si, oui ou non, le meurtre de Colette a été prémédité.
Sylviane, elle dit, si vraiment j'avais prémédité le crime, j'aurais pas tué Colette dans un cabanon sur la propriété de mon fils, etc.
Pendant les 3 jours de débat, accusation et défense se renvoient la balle. David, qui comparaît libre à son procès, joue les seconds rôles. Pour l'expert psychiatre, le jeune homme a agi sous l'emprise de sa mère.
C'est quelqu'un qui a toujours été en quête de reconnaissance et de reconnaissance maternelle et d'amour maternel. Et c'est quelque chose qu'il n'a jamais eu. Il n'y a pas que les menaces qui ont fait que David a agi. Il y a aussi le fait que peut-être qu'en sauvant la vie de sa mère et en l'aidant, il allait être le fils qu'il souhaitait être.
Quant à Sylviane, son comportement vindicatif et agressif interpelle la cour tout au long des audiences.
Elle a tué quelqu'un et elle en parle comme malheureusement d'un morceau de viande. Hein, je veux dire, elle a rendu service à la société. La haine qu'elle lui voue, elle est profonde.
Une attitude qui laisse entrevoir un mobile d'ordre plus psychologique que financier.
Pour moi, le mobile principal, ça reste la jalousie qu'elle avait envers ma mère sur la réussite qu'elle avait ma mère, sur les rapports que ma mère elle avait avec nous.
On avait l'impression qu'elle était encore en rivalité avec elle et que s'il fallait la tuer une deuxième fois pour qu'elle soit enfin tranquille, elle la tuerait une deuxième fois. Enfin, c'était vraiment terrible. Elle a été terrible, cette audience.
À l'issue des débats, les jurés ne retiennent pas la préméditation. Ils condamnent Sylviane à une peine de 30 ans de réclusion criminelle. Son fils, David, écope lui de 3 ans de prison, dont un avec sursis. Sylviane fait appel de la décision et attend un nouveau procès. À l'orgue, près de 4 ans après les faits, la douleur est toujours aussi vive chez les proches de Colette. Depuis la disparition de sa mère, Alexandre, lui, reste inconsolable.
On entend les gens dire, de toute façon, une mère, on n'en a qu'une, un père, on n'en a qu'un. Mais c'est la vérité. Parce que quand on se dit qu'on ne verra plus jamais la personne, on n'a que les souvenirs. Mais les souvenirs, ça remplace pas une personne.